Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et surtout d'habitudes qui viennent saper la confiance en soi, qui empêchent de gagner confiance en soi. Donc si aujourd'hui vous voulez gagner confiance en vous et que vous faites un travail en ce sens, c'est important de faire attention à ces mécanismes-là, à ces habitudes-là, qui risquent de vous auto-saboter. C'est ce que je vois très souvent chez mes clients et mes clientes, et c'est ce qui m'a inspiré du coup cet épisode. Je constate que la plupart, avant d'entamer un coaching avec moi, ont déjà essayé de travailler sur leur confiance en elles, ont déjà essayé de mettre en place des choses, des techniques, des outils, et ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas sur le long terme. En réalité, c'est parce qu'il y a des mécanismes, elles ont des habitudes qui sont bien ancrées, qui sont parfois très discrètes, mais qui viennent saper leur confiance en elles. En prendre conscience, et donc prendre conscience de ce qui vient nous auto-saboter, c'est ce qui va permettre de changer ça et de gagner vraiment confiance en soi. Donc, c'est parti. Déjà, avant toute chose, comme d'habitude, une petite définition rapide de ce qu'est la confiance en soi, parce que parfois on s'emmène les pinceaux entre ce qu'est la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc la confiance en soi, c'est notre croyance en notre potentiel, en nos propres capacités, en nos qualités, en notre jugement. Versus l'estime de soi, qui est le fait de croire en notre valeur, de s'estimer. Là, la confiance en soi, c'est le fait de croire qu'on est capable de faire certaines choses, d'accomplir ce qu'on désire, de se faire confiance pour prendre des décisions, pour faire face aux imprévus, aux défis qu'on rencontre au quotidien ou dans nos projets ou dans la vie, plus simplement. La confiance en soi, c'est pas quelque chose avec lequel on est né, c'est plutôt quelque chose qu'on développe au fil du temps, à travers nos expériences, nos réalisations, nos accomplissements, nos interactions aussi avec le monde qui nous entoure. Donc ça signifie aussi que même si on n'a pas confiance en soi aujourd'hui, même si on n'a pas développé cette confiance en soi dès l'enfance, on peut toujours, à n'importe quel âge, travailler sa confiance en soi et développer une belle confiance en soi. Ce sentiment, cette croyance que je peux faire des choses, et aussi cette croyance en ma valeur, donc le fait de m'estimer, c'est hyper important pour m'épanouir dans ma vie et dans tous les aspects de ma vie, que ce soit le pro ou le perso. Ça impacte notre vie en général et notre bien-être aussi. Le fait de ne pas croire en soi, de douter de soi, de se juger négativement, de se trouver inférieur aux autres, de ne pas oser, tout ça c'est lourd au quotidien. Et c'est pour ça que la confiance en soi, et tout ce qui gravite autour d'ailleurs, parce que c'est une thématique très large, c'est vraiment une de mes thématiques préférées, parce que je vois tous les jours l'impact que ça a de travailler là-dessus sur la vie de mes clientes. Mais comme je vous disais, je constate aussi qu'il y a des habitudes, qu'il y a des fonctionnements qui sont bien ancrés, qui viennent saboter leur confiance en elles et sur lesquels il faut travailler. J'en ai identifié 5 qui reviennent vraiment souvent. Il y en a plein d'autres bien sûr, mais sinon cet épisode durerait une heure, donc on va se focus sur les 5 habitudes que j'observe quasiment à tous les coups. Première habitude qui vient saper la confiance en soi, c'est d'entretenir un discours intérieur négatif. Le fait d'avoir un dialogue interne négatif, d'avoir des pensées négatives sur soi, sur nos capacités, ça vient complètement saper la confiance en soi. Alors bien sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées négatives sur soi, mais de se dire régulièrement qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, qu'on va échouer, que si on dit ou on fait telle chose, on va être jugé, que les autres, ils y arrivent et pas nous. Enfin voilà, toutes ces pensées vont venir plomber ma confiance en moi. Forcément, je vais me sentir pas à la hauteur, je vais me sentir pas assez, je vais pas me sentir légitime, je vais me sentir inférieure, et donc avec ça vient l'anxiété, le stress, etc. Et comment oser faire des choses, comment oser prendre des décisions, comment oser être soi-même quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Le truc, c'est que parfois, on a tellement l'habitude de se parler comme ça. On a tellement l'habitude d'avoir ce genre de pensée envers nous-mêmes qu'on ne remarque même plus. C'est une habitude tellement ancrée qu'on ne réalise plus à quel point ça nous fait du mal. Voire pire, on pense que si on arrête d'être aussi dur envers soi-même, on va complètement partir en roue libre. Ça, j'entends très souvent dans la bouche de mes clientes et c'est vraiment problématique comme croyance. En tout cas, si ce qu'on cherche, c'est à gagner confiance en soi et à se sentir un peu plus apaisé, un peu plus serein ou sereine dans sa vie. Ce discours intérieur négatif peut aussi devenir une prophétie autoréalisatrice. Par exemple, imaginons que j'ai un entretien d'embauche et que juste avant, je me dis des choses du genre « je vais pas être assez qualifiée pour ce poste, je vais stresser et complètement gâcher l'entretien, etc. » Toutes ces pensées vont me générer de l'anxiété vont me générer du stress qui me permettra pas d'être au top pendant l'entretien, qui va me faire sous-performer. Mais pas parce que je suis pas capable, mais parce que le fait de me dire que ça allait mal se passer et que je vais être stressée et que je vais paniquer fait que je stresse en amont, que je panique et donc je perds mes moyens ou je bafouille. Et donc ça me génère encore plus de stress et c'est un peu une spirale infernale. Après ça, il suffit que j'obtienne pas le poste pour me dire que bah voilà, c'est parce que je suis pas assez bonne, je suis pas à la hauteur, les autres sont mieux que moi, plutôt que reconnaître que c'est parce que j'ai tout ce dialogue interne négatif qui vient me faire perdre confiance en moi et qui m'empêche de performer à la hauteur de mes capacités, en réalité. Je voudrais vous donner un autre exemple que j'ai eu pas plus tard qu'hier en séance avec une cliente et que je trouve super intéressant. Elle est en reconversion, en recherche de sa nouvelle voie professionnelle et donc elle suit le programme Oser. Et elle me dit qu'elle s'est rendue compte ces dernières semaines qu'elle apprend vite. Et là tout de suite elle se corrige en me disant « mais en fait je suis pas sûre, j'ai ce sentiment mais peut-être qu'en fait c'est pas vrai, peut-être que quelqu'un d'autre trouverait que j'apprends pas si vite que ça ». Et je lui ai dit « stop, regarde, que ce soit vrai ou pas vrai, regarde ce que ça génère chez toi ». Quand elle a cette croyance, cette pensée qu'elle apprend vite, ça la motive, ça lui donne envie justement d'apprendre, de faire des recherches, de persévérer quand elle est face à quelque chose de nouveau qu'elle connaît pas, parce qu'elle se dit que bon ben ok, là elle est perdue, elle est débutante, mais elle va pouvoir apprendre. Et cette croyance, ça l'aide énormément. Si à l'inverse, elle se dit que elle a du mal à apprendre des choses nouvelles, qu'elle est lente, etc., dès qu'elle va être confrontée à une situation comme ça, elle risque de paniquer, de stresser, d'avoir des pensées négatives qui du coup ne la mettent pas dans de bonnes dispositions pour faire face. Alors que dans les deux cas, elle a peut-être exactement les mêmes capacités, les mêmes compétences, et ce qui diffère, c'est ce qu'elle pense d'elle-même. Et je vais du coup donner mon exemple. Moi j'ai cette croyance que j'ai un bon sens de l'orientation. Au fond, je suis pas très sûre que ce soit vrai. En tout cas, c'est pas exceptionnel. Mais le fait de penser que j'ai un bon sens de l'orientation fait que quand je suis dans un endroit nouveau, quand je me sens perdue, ben, je suis pas en train de paniquer en me dire « oh là là, je vais jamais me retrouver, je suis perdue, etc. » Je me dis « ok, j'ai un bon sens de l'orientation et donc je vais m'en sortir. » Cette pensée fait que je suis détendue, je vais pas paniquer et je vais chercher mon chemin. Et là, je pense à ma mère qui, elle, a la croyance inverse, qui ne fait pas du tout confiance à son sens de l'orientation. Et dès qu'elle se retrouve dans un endroit qu'elle connaît pas, ou si elle prend la mauvaise sortie sur l'autoroute, mais là, elle va tout de suite paniquer. Et effectivement, elle va être incapable d'avoir la clarté nécessaire pour se retrouver. En toute honnêteté, je pense qu'elle et moi, on a exactement le même sens de l'orientation. Mais tout ce qui change, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on se dit. Donc, si vous avez tendance à vous autocritiquer, à vous juger, à être dur envers vous-même, à régulièrement vous dire que vous n'en serez pas capable, qu'il y a meilleur que vous, que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Et là, je vous recommande l'épisode 78 du podcast. J'en parle vraiment en détail avec des clés, des solutions concrètes pour calmer ce petit juge intérieur, pour changer ce discours intérieur, pour faire en sorte que vous ayez des pensées plus aidantes. Et arrêtez du coup de vous auto-saboter. Deuxième habitude qui vient saper la confiance en soi, c'est le fait de se fixer des objectifs inatteignables. Bien souvent, quand on fait ça, on en a conscience. On sait bien qu'on peut pas faire tout ce qu'il y a sur cette to-do list, tout ce qu'on aurait envie de faire dans cette journée, mais on tente quand même, on a quand même envie, au fond, de réussir à faire toute cette to-do list, alors que si on se pose la question, et même sans se poser la question, au fond, on sait que c'est pas possible. Résultat, à la fin de la journée, inévitablement, on se sent déçu, on se sent insatisfaite parce qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on voulait accomplir, on se sent frustré, on a l'impression de ne pas en avoir fait assez, et parfois on finit aussi par se sentir pas assez. Ça, c'est vraiment un petit truc, mais qui fait du mal à la confiance en soi. Quand on se met la barre trop haut et qu'on n'atteint pas nos objectifs, parce que de toute façon, c'était pas possible, parce que de toute façon, on avait des attentes irréalistes, on est déçu et on perd confiance en soi. Alors si ça arrive une fois, c'est pas grave, mais quand c'est répété, c'est là où ça fait mal. On a besoin pour avancer, d'avoir, et pour être motivé aussi, d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Le fait de sentir, de voir qu'on arrive à accomplir des choses, c'est motivant. Alors bien sûr, il faut avoir des objectifs ambitieux, mais atteignables, et c'est ça la subtilité. Donc posez-vous la question quand vous fixez des objectifs, quand vous fixez une to-do list, quand vous avez des attentes, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont atteignables? Parce que sinon, vous vous condamnez d'avance à être déçu, à être insatisfait ou insatisfaite, à être frustré. Si vous attendez de vous-même, alors que vous venez de commencer un nouveau job, d'être opérationnel et de tout savoir sur ce nouveau poste en quelques semaines ou quelques mois, alors qu'il faut 6 mois, il faut 1 an pour l'être, vous serez forcément déçu. et vous allez douter, vous allez vous mettre la pression. Si vous attendez de vous-même d'être toujours de bonne humeur, de jamais louper une séance de sport, d'arriver à manger sain 365 jours par an, de toujours répondre avec un grand sourire à vos collègues et à vos enfants, de jamais procrastiner, de toujours être motivé, mais forcément, vous allez être déçu, forcément, vous allez douter de vous, vous allez vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais pas parce que vous ne l'êtes pas, parce que l'attente de base, elle est irréaliste, elle est impossible à atteindre. On ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas être toujours souriant, toujours de bonne humeur, toujours sympa, toujours réussir à faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. On est humain, et ça je sais que vous le savez, parce que souvent mes clientes me disent « mais je sais que la perfection n'existe pas, je sais que je ne peux pas être parfaite, et pourtant elles essayent quand même ». Et c'est là la clé, c'est que je sais que mentalement, intellectuellement, vous avez compris qu'on ne peut pas être parfait ou parfaite, mais maintenant il faut l'appliquer, il faut vraiment lâcher prise, mais concrètement. Et donc arrêtez de vous fixer des objectifs qui sont inatteignables, d'avoir des attentes irréalistes pour vous-même. Parce que tant que vous ferez ça, vous ne pourrez pas vous sentir satisfait ou satisfaite de vous-même et donc gagner confiance en vous. Là, le défi, concrètement, ça va être de vous fixer des objectifs ou d'avoir des attentes qui soient réalistes et de vraiment vous poser la question, est-ce que je peux attendre ça de moi ? Ou est-ce que je peux, matériellement ou physiquement ou en termes de temps, faire tout ça ? Et si la réponse est non, baissez vos attentes, baissez vos objectifs pour faire en sorte qu'ils soient atteignables. Bien sûr, c'est important que vos objectifs soient ambitieux, parce que c'est aussi ce qui est motivant, mais ambitieux et faisable par rapport au temps que vous avez, par rapport à l'énergie que vous avez, par rapport à votre réalité, à vos contraintes. Enfin, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Je pense là à une cliente qui a décidé de lancer un projet entrepreneurial à côté de son job salarié. Elle voulait avancer vite et y consacrer plusieurs heures par jour. Le truc, c'est que sa réalité, c'est qu'elle avait quand même un job prenant, des enfants. Du coup, elle avançait pas du tout comme elle le voulait. Elle était frustrée, elle était un peu de mauvaise humeur parfois aussi avec ses enfants qui la sollicitaient beaucoup. Et ça, elle culpabilisait beaucoup. Et elle s'en voulait aussi à elle-même de pas avancer aussi vite que prévu, etc. Mais le problème, là, dans ce cas de figure, c'est l'attente, c'est l'objectif qui n'est pas réaliste. Donc forcément, elle est déçue d'elle-même, forcément, elle doute d'elle, elle se met la pression. Et donc là, la solution, c'est d'accepter qu'il y a parfois une différence entre ce qu'on voudrait, idéalement, et ce qu'on peut faire, ce qu'on est en mesure de faire, ce qu'on a le temps, les capacités, l'énergie de faire, et ajuster et être réaliste, parce que sinon, encore une fois, on s'auto-condamne à être déçu, à être frustré, et on perd confiance en soi. Troisième chose qui vient saper votre confiance en vous, c'est le fait de ne pas prendre le temps d'apprécier ce qu'on accomplit. Ça, c'est fatal, parce qu'on n'a aucun problème en général à se rappeler nos erreurs, nos échecs, ce qu'on n'a pas fait assez bien, tout ce qui nous reste à faire. Mais quand on réussit quelque chose, ça, ça part aux oubliettes tout de suite. Ou on n'y porte pas grand intérêt. On se concentre sur le négatif, et par contre, on oublie les challenges qu'on a déjà surmontés, les progrès qu'on a faits, les choses qu'on a apprises, les fois où c'était dur et où on s'en est sorti, les choses qu'on a réussies. Or, c'est comme ça que se construit la confiance en soi. C'est ce qui me permet de me dire que j'ai déjà traversé des épreuves ou j'ai déjà fait des choses difficiles et j'y suis arrivée. Donc là, j'ai les ressources, j'ai les capacités d'y arriver aussi. C'est ce qui me permet de me dire que la dernière fois, avant de faire une présentation au travail, j'étais aussi morte de trouille et pourtant, je l'ai fait et globalement, ça s'est bien passé. Et je dis globalement parce que souvent dans ces moments-là, on a tendance à voir, encore une fois, à porter beaucoup d'importance à ce qui s'est mal passé, à ce qui n'était pas parfait, et on oublie que, en fait, globalement, 90% de ce qu'on a fait était très bien. Mais on va se focus sur la question à laquelle on n'a pas su répondre, sur la fois où on a bégayé, alors que peut-être après cette présentation, on a eu des compliments, on nous a dit que c'était bien, et ça, ça passe à la trappe, et notre cerveau a tendance, mais vraiment, c'est assez naturel, mais c'est aussi pour ça qu'il faut en prendre conscience, pour pouvoir s'entraîner à faire les choses différemment, on a tendance naturellement à voir le négatif, à minimiser ce qu'on a fait de bien, en disant par exemple, ah mais oui, mais là, c'est normal, je n'ai fait que mon travail, ou on m'a aidé, enfin tout c'est oui mais. Oui, mais n'importe qui aurait pu le faire, ou elle m'a dit que c'était bien, mais c'est parce qu'elle veut m'encourager, ou pire, en fait, elle ne le pense pas vraiment. Voilà, toutes ces pensées-là qui viennent minimiser les choses qu'on fait bien, alors qu'on en a besoin pour avoir confiance en soi. L'idée ici, c'est vraiment d'équilibrer. C'est pas de ne plus du tout penser au négatif et à ce qu'il faut améliorer. Bien sûr, c'est hyper important pour évoluer, pour s'améliorer. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut que ce soit équilibré et réaliste. Ça va être compliqué de gagner confiance en vous si dès que vous faites quelque chose de bien ou dès que quelque chose se passe bien, vous le zappez. Je vous donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais en séance une cliente qui a du mal à s'affirmer, en tout cas c'est ce qu'elle me disait, qu'elle avait très peur du conflit, etc. Et quand on a creusé un petit peu, ben, il y avait des exemples, même plutôt récents, de fois où elle avait osé dire les choses, elle avait osé s'affirmer et ça s'était bien passé. Parce que ce qui l'empêchait aussi de s'affirmer, c'est qu'elle avait peur du conflit, peur qu'on l'aime moins, peur que ce soit compliqué à gérer, peur que l'autre s'énerve. Enfin, il y avait plein de peurs autour de ça. Sauf qu'il y a quand même des fois où elle avait osé et où ça s'était bien passé et où toutes ses peurs ne s'étaient pas confirmées. Mais ça, pouf, elle l'avait jeté à la poubelle de son cerveau assez rapidement. Or, c'est de ça qu'on a besoin. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous faire un auto-feedback. C'est-à-dire, après avoir osé faire quelque chose, prendre le temps de voir que, ok, bah ça me faisait peur, ou ça me stressait énormément, ou ça me paraissait difficile, et maintenant, après coup, je me rends compte que ça allait, je me rends compte que j'ai su gérer, que peut-être, bien sûr, encore une fois, il y a des choses à améliorer, mais que ça va. Et c'est ça qui va vous donner des billes pour la prochaine fois. Parce que si vous passez directement à autre chose, bah la prochaine fois, quand la même situation se présente, bah, vous n'aurez rien appris. Et vous n'aurez pas d'expérience sur lesquelles vous baser pour vous dire que vous en êtes capable et que ça va aller. Alors que si vous avez pris le temps après coup de vous faire un auto-feedback, bah la prochaine fois vous pourrez vous dire « bah ouais, en fait, il y a quelques temps j'étais dans la même situation, je ressentais les mêmes émotions et pourtant je l'ai fait et ça s'est bien passé, donc peut-être que cette fois aussi ça pourrait bien se passer ». Et c'est un cercle vertueux parce que grâce à ces pensées, vous allez à nouveau oser, gagner un petit peu plus confiance en vous et la prochaine fois, vous aurez encore un peu plus confiance et vous allez continuer comme ça de plus en plus et c'est là où vous allez pouvoir construire une confiance en vous solide. Deuxième conseil, deuxième clé, ça va être de vous remémorer ou de prendre le temps de noter, même si c'est mentalement, de noter les choses que vous avez accomplies, vos réussites, petite ou grande, parce que si votre cerveau il n'est pas encore capable de le faire parce qu'il a tendance à voir le négatif, ben c'est à vous d'être proactive ou proactif pour lui faire voir. Pour ça, je vous avais proposé un mini exercice, une mini question de journaling dans l'épisode précédent justement sur le journaling, l'épisode 85. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous poser à la fin de chaque semaine et noter toutes les choses que vous avez faites, toutes les choses que vous avez réussies, même toutes petites, et vraiment essayer de vous nourrir de chaque petit pas. Parce que c'est comme ça, encore une fois, que vous allez prendre confiance en vous. Mais pour ça, il faut forcer, entre guillemets, notre cerveau à voir ce qu'il n'a pas l'habitude de voir parce qu'il se concentre sur le négatif. Et aussi à faire attention à ne pas voir les choses en tout noir ou tout blanc. C'est ce que je vous disais avec l'exemple de la présentation. Peut-être que à 90%, même 99%, ça s'est très bien passé et qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé, 1%. Il ne faut pas que ce 1% vienne teinter toute votre expérience. Il ne faut pas que ça en devienne une expérience négative, un échec, une non-réussite, parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Je vous invite vraiment à prendre du recul et à essayer de voir les choses en nuances de gris, parce que même dans une expérience négative, il y a aussi des choses positives. Et il ne faut pas les oublier. Quatrième habitude qui vient saboter la confiance en soi, c'est le fait d'éviter les défis. Éviter de faire des nouvelles choses ou éviter les choses qui me font peur. Derrière ça, bien sûr, il y a souvent la peur de l'échec. Mais le problème de ça, c'est que c'est un cercle vicieux. J'ai pas confiance en moi, donc j'ose pas faire de nouvelles choses, ou je prends pas de risques, ou j'ose pas dire ce que je pense, ou prendre des initiatives. Mais c'est que en osant faire tout ça, que je peux voir que j'ai les ressources, que je peux voir que je suis capable de faire des choses. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'on a tendance à attendre d'avoir confiance en soi pour agir, sans comprendre que c'est en agissant qu'on va pouvoir gagner confiance en soi et se prouver qu'on est capable, et se prouver qu'on peut gérer, et aussi se prouver qu'on peut gérer l'échec, parce que l'échec fait peur, et plus on l'évite, et moins on peut se montrer, encore une fois, qu'on est capable de gérer un échec, qu'on est capable de rebondir, qu'on est capable de trouver des solutions. Pareil pour le conflit, si j'évite le conflit, je ne peux pas développer des compétences de gestion de conflit. Et je peux pas voir aussi que la plupart du temps, en réalité, quand je m'affirme, tout se passe bien. Tout ça, je peux pas le voir puisque je n'ose pas. Et c'est de pire en pire parce que moins j'ose, plus je reste dans ma zone de confort, plus je reste là où je maîtrise, et moins j'ai de nouvelles réussites, et moins j'ai de raisons de me prouver que je peux, j'ai moins de raisons d'être fière de moi, et plus je perds en confiance en moi. Et donc bien sûr, plus c'est difficile de sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qui se passe parfois, par exemple, quand on est pendant longtemps sur un poste. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une cliente qui a un poste plutôt élevé. Ça faisait 10 ans qu'elle était sur ce poste et elle était terrorisée à l'idée de postuler ailleurs Pourtant, elle avait envie de nouvelles expériences, elle avait envie de nouveaux challenges, mais elle avait peur parce que elle n'avait pas du tout confiance en elle. Alors, elle avait confiance en elle sur son poste, puisqu'elle le connaissait très bien, ça faisait 10 ans qu'elle était dessus, mais pas du tout pour faire autre chose, puisque ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas challengée, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de nouvelles choses, donc elle avait perdu confiance en elle sur le reste. Petit aparté, d'ailleurs ça aurait pu faire l'objet d'un chapitre de cet épisode à part entière, parce que c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de mal à la confiance en soi, c'est la surcompensation. Donc juste avant là je vous parlais d'évitement, mais il y a aussi la surcompensation. C'est quoi? C'est quand par exemple, je vais reprendre mon exemple de la présentation au travail, j'ai une présentation à faire au travail, j'ai pas le choix, mon boss m'a demandé de faire cette présentation, je ne peux pas l'éviter, mais comme je ne me pense pas à la hauteur ou que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, que je manque de confiance en moi, je vais surtravailler, surpréparer, je vais passer des heures et des heures pour faire en sorte que ce soit parfait et ne pas me ridiculiser. Et ça aussi, ça vient faire du mal à la confiance en soi, même si on le voit pas toujours, parce qu'en réalité, ce qui se passe là, c'est que tant que j'en fais trop, tant que je fais les choses parfaitement, bien sûr, tout se passe bien, je performe, je réussis, mais je ne peux pas voir que si je fais moins, si je fais juste assez, ça suffit. Qu'en réalité, je suis tout à fait capable de réussir sans autant préparer. Et le fait d'avoir surcompensé une fois fait que je me dis que, bah, en fait, pour réussir, il faut que je travaille autant, il faut que je m'investisse autant, alors qu'en réalité, pas du tout. Et donc, ça va être difficile de gagner confiance en moi puisque je vais être dans cette surcompensation. Donc là, en termes de clés, de solutions, il n'y a pas de secret, que ce soit si vous êtes dans l'évitement ou si vous êtes dans la surcompensation, ça va être de faire ce qui vous fait peur, petit pas par petit pas, d'oser faire ce qui vous fait peur ou d'oser faire moins et pouvoir voir qu'en fait, tout se passe bien. Il n'y a que comme ça que vous pourrez gagner confiance en vous, en prouvant à votre cerveau qui a peur que vous en êtes capable. Alors bien sûr, je dis pas que c'est confortable, ça veut dire d'accepter aussi de faire les choses en ayant peur, mais ça ne vous empêche pas de faire les choses, et il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. J'ai peur de faire quelque chose, je fais un petit pas, je vois que ça se passe bien, je gagne un tout petit peu confiance en moi, et donc ça me motive pour faire un pas de plus, et un pas de plus, et un pas de plus, et c'est comme ça que, petit pas par petit pas, votre confiance en vous va grandir et va se solidifier, oui on peut dire ça. Tout ce que je vous dis là depuis le début de cet épisode, c'est ce qu'on fait en coaching. En tout cas, dans mon approche, je travaille comme ça. D'abord, travailler sur la partie cognitive, c'est-à-dire ce que vous vous dites. Parce que comme je vous ai dit, ce que vous croyez, ce que vous pensez a un impact énorme sur comment vous vous sentez et ce que vous osez faire ou pas. Et puis ensuite, travailler aussi sur vos comportements, ce que vous osez faire et ce que vous osez pas faire. Parce que parfois, on a compris les choses intellectuellement, mais on n'ose toujours pas les faire et donc rien ne change. Donc pour ça, il faut se challenger petit à petit. Et c'est le rôle d'un coach, en tout cas c'est mon rôle et c'est comme ça que je vois les choses. C'est mon rôle de vous accompagner à faire ces petits pas en vous donnant un cadre safe pour voir qu'en fait tout va bien, que vous pouvez dire ce que vous pensez et on va pas vous juger, que vous pouvez dire non et que ça va pas forcément provoquer un énorme conflit ou qu'on vous aimera pas moins ou que vous pouvez faire moins et qu'en fait tout se passe bien, etc. Et développer comme ça une confiance en vous qui soit durable. Cinquième habitude qui fait vraiment du mal à la confiance en soi, c'est le fait de se comparer aux autres. La tendance qu'on peut avoir à se juger par rapport aux autres, à se comparer, peut nous faire nous sentir pas à notre place, inférieur, avec moins de valeur, moins bien, pas assez, même si on réussit plein de choses et qu'on a accompli plein de choses. Je vous donne un exemple, encore une fois, tiré d'une séance, d'une cliente qui était tout à fait compétente et reconnue dans son poste, mais elle avait tendance à se comparer à ses collègues, et notamment à une collègue qui était à un poste plutôt similaire, qui avait plus d'expérience, alors ça c'était factuel, mais qu'elle percevait aussi comme meilleure, comme plus à l'aise, comme plus confiante justement, comme plus à l'aise à l'oral, cette autre personne, elle n'hésitait pas forcément à partager ses idées, etc. Et donc ma cliente avait le sentiment d'être moins compétente, moins performante. Ça a commencé à la faire douter de ses compétences, de sa valeur professionnelle à elle, ce qui lui a fait perdre confiance en elle. Et concrètement, elle avait tendance du coup à beaucoup plus douter dans son travail. En réunion, elle avait du mal à partager ses idées parce que elle se disait qu'elles étaient sans doute nulles comparées à cette autre collègue. Elle y pensait beaucoup, en tout cas ça lui prenait beaucoup d'espace mental. Or, ma cliente, elle était tout aussi compétente, elle avait plein de qualités, plein de forces, certaines différentes, bien sûr, de sa collègue, mais ça, elle l'oubliait. Donc c'est hyper important, quand on se compare, de aussi se rappeler nos propres forces, nos propres compétences, de pas oublier tout ce que soi-même on accomplit, parce que souvent, ça, on l'oublie. On voit chez l'autre ce qui nous manque, on voit pas aussi que l'autre, il a plein de défauts, et qu'on a peut-être plein de compétences ou de qualités que l'autre n'a pas, et on oublie tout ce que soi-même on fait et tout ce que soi-même on est. Donc c'est important de se rappeler tout ça, encore une fois, de ne pas se focus que sur le négatif et d'utiliser la comparaison comme un moyen de s'inspirer et pas comme un moyen de constamment se dévaloriser, parce que sinon c'est sûr qu'on va perdre à ce jeu-là. C'est sûr, il y aura toujours des personnes qui auront telle qualité qu'on n'a pas, qui sauront faire telle chose, qui auront réussi telle chose. Donc c'est obligé qu'on perde à ce jeu. C'est essentiel de se concentrer sur notre progression, sur notre croissance. La seule personne à laquelle on doit se comparer, c'est nous. Après, les autres peuvent être une source d'inspiration, mais pas, encore une fois, un moyen de se dévaloriser. Voilà pour ces 5 habitudes qui viennent saper la confiance en soi. Il y avait donc le fait d'entretenir un discours intérieur négatif, le fait de se fixer des objectifs inatteignables, d'avoir des attentes irréalistes, le fait d'éviter les défis ou à l'inverse d'être dans la surcompensation, et enfin le fait de tout le temps se comparer aux autres. Je vous ai donné quelques clés, mais pour aller plus loin, je vous invite vraiment à écouter les épisodes que j'ai mentionnés, notamment l'épisode 78, où je vous partage des clés pour calmer l'autocritique et retrouver la paix intérieure. Mais il y a aussi, et je ne l'ai pas cité, l'épisode 46, où je vous partage 5 clés pour renforcer votre confiance en soi pas à pas. Je pense que c'est un bon complément à cet épisode à écouter ou à réécouter. Et si vous voulez travailler avec moi et bénéficier d'un accompagnement personnalisé, je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas et que vous voulez soutenir mon travail et J'ai peur donc j'y vais, à laisser des étoiles sur l'appli de podcast que vous utilisez, notamment on peut le faire sur Apple Podcasts et Spotify. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt. Ciao !